Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Brachot, page 3, Daf Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Moi demande, Kasha de Rabbi Meir a dit Rabbi Meir, si c'est ainsi, d'après l'explication de cette Braïta, il y a une contradiction de Rabbi Meir à Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que nous voyons que plus haut, dans une autre Braïta, Rabbi Meir a dit qu'on a le droit de commencer à réciter le Kriyat Shema à partir de l'heure où les gens rentrent chez eux pour manger leur repas les soirs de Shabbat. Et là, dans cette Braïta, il a dit, à partir du moment où les Kohanim, le dernier moment où les Kohanim ont le droit de s'immerger dans le bain rituel. C'est-à-dire que c'est un moment qui est beaucoup plus tôt que le moment où les gens rentrent chez eux pour manger leur repas le jour du Shabbat. Donc c'est une contradiction entre Rabbi Meir. Alors la Gemara répond, très Tanaï Aliba de Rabbi Meir. Ce sont ici deux Tanaïm qui donnent chacun une explication d'après les paroles de Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Meir a dit quelque chose, et il y a deux Tanaïm qui discutent qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir. La Gemara demande maintenant, Kashié de Rabbi Eliezer à de Rabbi Eliezer. Il y a une contradiction entre les paroles de Rabbi Eliezer dans cette Braïta et les paroles de Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Braïta, Rabbi Eliezer a dit qu'on a le droit de commencer à réciter le Kriyat Shema à partir du moment où l'on sanctifie le jour du Shabbat, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire à partir du moment de Ben Hashmashot. Et dans la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit qu'on a le droit de commencer à réciter le Kriyat Shema seulement à partir de la sortie des étoiles. Donc c'est une contradiction entre les paroles de Rabbi Eliezer. Alors comment répondre? Très Tanaï Aliba de Rabbi Eliezer. Il y a deux Tanaïm qui se sont exprimés d'après Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer a expliqué son avis, il y a deux Tanaïm qui discutent quel est l'avis de Rabbi Eliezer. De Ubaïtema, si tu veux, tu peux me dire une autre réponse. Reisha, lav Rabbi Eliezer, le début de la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, lorsque nous avons dit dans la Mishnah, à partir de quel moment on a le droit de réciter le Kriyat Shema du soir, ça, c'est la Mishnah qui le parle et qui le dit, et ce n'est pas Rabbi Eliezer. Tout ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est qu'on a le droit de le réciter seulement jusqu'à la fin de la première garde. Mais, à partir de quand on a le droit de commencer à le réciter, ça, ce n'est pas Rabbi Eliezer qui l'a dit. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Berachot Dav Bet. Nous commençons le shiur de Masechet Berachot Dav Gimel. Nous sommes Dav Gimel Amud Aleph à la quatrième ligne. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Il est dit dans la Mishnah que nous avons le droit de réciter le Kriyat Shema d'après l'avis de Rabbi Eliezer, Atzof Ashmura Shema, jusqu'à la fin de la première garde. La Gemara demande, Maï Kassavar Rabbi Eliezer? Que pense Rabbi Eliezer? I Kassavar Shalosh Mishmarot Ave Alayla? Si il pense que la nuit est divisée en trois gardes, alors nous avons une règle qui nous dit que toute nuit est divisée en 12 heures d'après la Torah. Et donc, ces 12 heures divisées en trois gardes, ça fait que chaque garde a une durée de 4 heures. Alors, Lima, Rabbi Eliezer n'a qu'à dire, Adar Bashos, on a le droit de réciter le Kriyat Shema jusqu'à la fin de la quatrième heure. Ve Kassavar Arba Mishmarot Ave Alayla? Et s'il pense, suivant l'autre avis, que la nuit est divisée en quatre gardes, donc chaque garde a une durée de trois heures. Alors l'imad shaloshot, alors il n'a qu'à nous dire qu'on a le droit de réciter le Kriyat Shema jusqu'à la troisième heure. Pourquoi a-t-il utilisé ce terme jusqu'à la fin de la première garde? Et pourquoi nous a-t-il pas dit explicitement jusqu'à quelle heure de la nuit nous avons le droit de réciter le Kriyat Shema? Alors Gemara nous répond, Leolam Kassavar, Shalosh Mishmarot Ave Alayla. Toujours nous devons dire que Rabbi Eliezer pense que la nuit est divisée en trois gardes. Et c'est cela que ça va nous apprendre. Deka Mashmarot Berakia, qu'il y a des gardes dans le ciel, des gardes célestes, et nous allons traduire littéralement maintenant, puis expliquer suivant l'avis de Rashi. Deka Mishmarot Bara, et il y a des gardes sur terre. Et Rashi nous explique que veut dire qu'il y a des gardes sur terre. Ça veut dire qu'il y a des signes suivant ces signes, nous pouvons savoir à quel moment les gardes célestes s'échangent, à quel moment nous passons d'une certaine garde à la seconde garde, et de la seconde à la troisième, etc. Détail, parce que nous avons appris dans une braïta. Rabbi Eliezer nous dit, Shalosh Mishmarot Ave Alayla, la nuit est divisée en trois gardes, Ve'akol Mishmar ou Mishmar, et dans chacune des gardes, Yoshev Akadosh Baruchu Veshoek Kari. Et dans chacune des gardes, Akadosh Baruch Hu s'assoit et rugit comme un lion. Chez Nehemar, comme il est dit, Hashem mimarom ishag, Hashem rugira d'en haut, ou memeron kotcho yiten kolo. Et de sa sainte résidence, il lancera sa voix, Shaor ishag al naveu. Il rugira et rugira à propos de son rugit. Ve siman la davar. Un signe pour cela, c'est-à-dire pour reconnaître quand et chaque garde, Mishmara Rishona Chamor Noer. Au moment de la première garde, l'anbre, Shnia, de la seconde, Klavim Soakim, les chiens aboient, Shlishid, au moment de la troisième garde, Tinok Yodek Mishdeimo, une mère allait son enfant, Veisham et Saperet Imbala, et une femme parle avec son mari. Et Rashi nous explique quelle est l'intention qu'une femme parle avec son mari, c'est-à-dire que c'est la fin de la nuit et les gens commencent à se réveiller. Et donc c'est pour cela que les gens qui dorment ensemble parlent entre eux. La Gemara demande maintenant, Maïka Rashiv Rabbi Eliezer, qu'est-ce que Rabbi Eliezer a pris en compte? C'est-à-dire lorsqu'il nous a donné ces signes, que signifie? Quel moment de la garde signifie ces signes? Itrilat Mishmarot Kachashiv. Si il vient et nous donne des signes, et ces signes se rapportent au début des gardes, Otrilat Mishmarot Rishona Simana Lamali. Pourquoi avons-nous besoin de donner un signe pour nous dire quand débute la première garde? Otaou, la première garde débute à la tombée de la nuit. Et donc, à partir de là, commence la première garde. Donc, il n'y a pas besoin de signes. Et s'il vient nous donner des signes pour nous dire quand se finissent ces gardes, Sof Mishmera Achona Lamali, Simana, pourquoi avons-nous besoin de donner un signe pour la fin de la dernière garde? Le signe est tout simplement Yemamaou. Dès que le jour commence, c'est la fin de la dernière garde, puisque maintenant ça commence la journée et se finit la nuit. Alors il faut dire que ces signes que Rabbi Eliezer a donné, ces signes signifient comme ça. Le signe sur la première, il a donné un signe pour la fin de la première garde, Vetrila Mishmaret Achona, et un signe du début de la dernière garde, Vemsaïd Emsaïta, et un signe qui nous dit le milieu de la garde du milieu. Ça c'est une première réponse. Veibaïkema, si tu veux, tu peux me dire une autre réponse. Kolo sauf Mishmarot Kachashim. Tous les signes qu'il nous a donnés, ce sont des signes qui nous disent quand se finissent ces gardes. Veibaïkema, Harona Lamali. Et si tu veux me dire que nous n'avons pas besoin de donner un signe pour nous dire quand se finit la dernière garde, puisque nous avons dit que la dernière garde se finit au lever du jour, alors les Maïnaf Kamina, pour quelle raison et pour quelle différence avons-nous besoin? La traduction les Maïnaf Kamina, c'est pour quelle différence? Mais en fait, l'explication ici, pour quelle raison avons-nous besoin de donner un signe pour la fin de la dernière garde, les Mikre Kriyat Shema, afin de nous dire à partir de quand on a le droit de commencer à réciter le Kriyat Shema le matin, les Mandegane Bebaït Afel. Pour quelqu'un qui dort dans une maison obscure, Velo Yadazman Kriyat Shema, et il ne sait pas c'est quand le moment du Kriyat Shema où on a le droit de commencer à réciter le Kriyat Shema, puisque ça, il se trouve dans une maison obscure, donc il n'arrive pas à différencier est-ce que le jour s'est déjà levé ou est-ce que le jour ne s'est pas encore levé, et il ne sait pas. Alors Kevan et Isham et Sabayat et Bala, du moment que ce moment où une femme parle avec son mari est arrivé, Vetinok Yonek Mishdeimo, et le moment où une mère allait son fils, alors l'ikum velikre, il peut se lever et réciter le Kriyat Shema, car grâce à ces signes-là signifient que le jour s'est déjà levé, et c'est sûr qu'il peut commencer à réciter le Kriyat Shema. Amar Rav Yitzhak Bar Shmuel, Rav Yitzhak Bar Shmuel nous dit, Mishme de Rav, au nom de Rav, Shalosh Mishmarot Ave Alayla, la nuit est divisée en trois gardes, Ve'alkol Mishmar ou Mishmar, et dans chacune de ces gardes, Yoshev Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est assis, Ve'shoek Kari, et rugit comme un lion, Ve'omer, et il dit, Oy les banim shebe'avonotem, ichavti et beti, malheur à ces enfants, qui par leur faute, j'ai détruit ma maison. Et brûlé mon temple, et je les ai exilés parmi les nations. Tanya, nous avons appris dans une braïda. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi nous dit, une fois, je marchais en chemin, et je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim, c'est-à-dire je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim, l'itpalel pour prier, est venu Eliaou, que sa mémoire soit bénite, Béchamar li la péta, et il m'a gardé la porte, c'est-à-dire pendant tout le temps que je priais, il gardait la porte, qu'il n'y ait personne qui rentre me déranger. Al chesiam tit filati, jusqu'à que j'ai fini ma prière. L'achar chesiam tit, après que j'ai fini ma prière, tfilati ma prière, Amarli, il m'a dit, Shalom alecha rebi, shalom, bonjour mon rave. Et moi je lui ai répondu, Shalom alecha rabbi umori, bonjour mon rave et mon maître. Mais Amarli, et il m'a demandé, Béni, mon fils, pour quelle raison es-tu rentré dans cette ruine-là? Alors je lui ai répondu, l'Itpalel, pour prier. Bernard, alors il m'a dit, tu aurais dû prier en chemin. Tu n'avais pas besoin de rentrer dans cette ruine. Tu aurais dû prier en chemin. Alors je lui ai répondu, j'avais peur que les passants m'empêchent de prier et m'afsikim, c'est-à-dire ils me coupent et m'interrompent dans ma prière. Alors il m'a répondu, alors tu aurais dû prier une prière courte, une prière abrégée. Et donc à ce moment-là, puisque tu aurais prié d'une moindre durée, donc à ce moment-là, personne ne t'aurait interrompu pendant ta prière. Alors, Botacha, à ce moment-là, la mati mimenu shloshad varim. J'ai appris de lui trois choses. La mati, j'ai appris chez Nechassim Lechurba, que l'on ne rentre pas dans une ruine. Velamati shemit palim bader, et j'ai appris qu'on a le droit de prier en chemin. Velamati, et j'ai appris encore une chose, shemit palel bader, que celui qui prie en chemin, mit palel tfilaktara, il devra prier une prière abrégée. Velamarli, après il m'a redit encore quelque chose. Beni makol shamata, quelle voix as-tu entendu, Bechur Bazo, dans cette ruine-là? Velamartilo, et je lui ai répondu, shamati batkol, j'ai entendu une voix céleste, shemenahemet kayona, qui gémissait comme une colombe. Et qui disait, Oila banim sheba avonotem ichavti et beti, malheur à mes aux enfants qui par leur faute j'ai détruit ma maison. Vesaravti et echali, et j'ai brûlé mon temple. Vegletim le ben aumot, et je les ai exilés parmi les nations. Puis à Marli, et il m'a répondu, c'est-à-dire Eliaou m'a répondu, Chayecha, je te jure par ta vie, Chaye Roshra, et par la vie de ta tête. C'est-à-dire, c'était une sorte de serment de l'époque. Loucha zo bilvad omelkar, ce n'est pas seulement à ce moment-là que cette voix céleste a dit cela. Et la bechol yom vayom, mais tous les jours, shalosh pehamim, trois fois par jour, omelkar, elle dit que cela. Velozo bilvad, et pas seulement cela. Et là, Bécha, chez Israël, les racines, les batek nesseyot, ou le batek midrashot. Au moment où les béné Israël rentrent dans les batek nesseyot, c'est-à-dire dans les bêta knesset, ou batek midrashot, et dans les batek midrash. Véronim, ils répondent, Yehé, Shemea, Gadol, Mevorach, que son grand nom soit béni. Akadosh Baruchu, Menahanea, Berosho. Akadosh Baruchu, hoche sa tête. Véomer, et il dit, Ashre, Ameler, Shemekalsim, Oto, Bebeto, Kar. Heureux soit le roi dont on le fait ainsi les louanges dans sa maison. Malolav Shiglaed Banav, qu'a-t-il le père qui a exilé ses enfants? Ve'oilem le banim Shegalou, me'al shulchan aviem. Et malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Tanu Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. Mipne shlosha devarim enichasim lechuba. Il y a trois raisons pour lesquelles on ne rentre pas dans une ruine. Mipne achashad, première raison, de peur qu'on le suspecte. Et Rashi nous explique qu'on le suspecte qu'il y ait une là-bas, dans cette ruine, une femme prostituée, et que lui, il rentre dans cette ruine pour avoir des relations avec une telle femme. Deuxième raison, mipne amapolet, de peur qu'il y ait un effondrement et un éboulement qui se passe là-bas quand lui se trouve dans cette ruine, et donc il va, l'éboulement, lui va être dans l'éboulement, et Chas v'Shalom risque de lui arriver quelque chose. Et la troisième raison, on m'y plaît à Mazikin, c'est de peur qu'il y ait des démons dans cette ruine, et que ces démons lui fassent quelque chose. Alors, ma demande, lui peine à Chacha, tu m'as dit la première raison, à cause de peur qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une prostituée. Vétipoclé, Michou, ma Paulette, pourquoi nous ne pouvons pas nous souffrir de la raison que nous avons peur d'un éboulement? Et nous passons à la page suivante. La Gemara répond, Bechadete, nous parlons dans le cas d'une ruine nouvelle, c'est-à-dire la ruine une ruine d'un nouveau bâtiment, et donc juste une partie de ce bâtiment est tombée, et il n'y a pas de crainte que le reste du bâtiment s'écroule lui aussi, et donc il n'y a pas de crainte d'éboulement. C'est pour cela qu'il n'y a pas de crainte d'éboulement, et nous avons dit seulement la raison de Rachad, qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une femme interdite.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tanu Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. Mipne shlosha devarim enichasim lechurba. Il y a trois raisons pour lesquelles on ne rentre pas dans une ruine. Mipne achashad, première raison, de peur qu'on le suspecte. Et Rashi nous explique qu'on le suspecte qu'il y ait une là-bas, dans cette ruine, une femme prostituée, et que lui, il rentre dans cette ruine pour avoir des relations avec une telle femme. Deuxième raison, mipnei amapolet, de peur qu'il y ait un effondrement et un éboulement qui se passe là-bas quand lui se trouve dans cette ruine, et donc il va l'éboulement, il lui va être dans l'éboulement et Chas v'Shalom risque de lui arriver quelque chose. Et la troisième raison, mipnei amazikin, de peur qu'il y ait des démons dans cette ruine et que ces démons lui fassent quelque chose. Alors, ma demande, mipnei achasha, tu m'as dit la première raison, à cause de peur qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une prostituée. Vetipokle mishum mapolet, pourquoi nous ne pouvons pas nous suffire de la raison que nous avons peur d'un éboulement? Et nous passons à la page suivante. La Gemara répond, Bechadete, nous parlons dans le cas d'une ruine nouvelle, c'est-à-dire la ruine, une ruine d'un nouveau bâtiment, et donc juste une partie de ce bâtiment est tombée, et il n'y a pas de crainte que le reste du bâtiment s'écroule lui aussi, et donc il n'y a pas de crainte d'éboulement. C'est pour cela qu'il n'y a pas de crainte d'éboulement, et nous avons dit seulement la raison de Rachad, qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une femme interdite. Alors, ma demande, Vetipokle Mishou Mazikin, alors pourquoi avons-nous besoin de dire quand même cette raison du Rachad, qu'on le suspecte? Pourquoi ne suffisons-nous pas de la raison qu'il y a des démons dans cette ruine, et donc ils peuvent lui faire du mal? L'Agma nous répond, Betré, on parle qu'ici ils sont deux. Et s'ils sont deux, nous avons une règle qui nous dit que les démons ne s'attaquent pas à deux personnes. L'Agma demande, Ibetré, s'ils sont deux, Rachanamileka, il n'y a pas de quoi aussi les suspecter, puisque nous savons très bien que si une personne veut avoir des relations avec une prostituée, il va aller tout seul dans un endroit, mais ils ne vont pas y aller à deux. L'Agma nous répond, Betré ou Prité, nous parlons de deux personnes de basse moralité. Et donc, deux personnes qui ont de basse moralité, eux, n'ont pas peur d'avoir des relations avec une prostituée, même s'ils sont à deux dans un seul endroit. Donc, c'est pour ça que la seule raison, c'est de peur qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une prostituée. La Gemara demande, « Mipnei amapolet ». Tu m'as dit que la deuxième raison était de peur qu'il y ait un éboulement. Alors, la Gemara demande, « Vetipokle mishum chashad ». Pourquoi ne te suffis-tu pas de la raison que nous avons citée plus haut, c'est-à-dire qu'on le suspecte qu'il ait des relations avec une prostituée ou mazikine, ou alors de peur qu'il y ait des démons dans cette maison qui lui fassent du mal? Agma répond, Betré ou Kshéré, ici nous parlons qu'ils sont deux, et donc puisqu'ils sont deux, les démons ne vont pas s'attaquer à eux. Kshéré, et ce sont deux personnes de bonne moralité. Et donc puisqu'ils sont de bonne moralité, alors il n'y a pas à les suspecter qu'ils aient des relations avec une prostituée. Donc la seule raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de rentrer dans cette ruine, c'est de peur qu'il y ait un éboulement. Agma nous demande, Umipnei amazikin. La troisième raison que tu nous as dit, c'est de peur qu'il y ait des démons. Agma demande, de peur que des démons s'attaquent à lui. Vetipokle mipnei achashad umapolet. Pourquoi ne nous suffisons-nous pas des raisons que nous avons citées plus haut, de peur qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une femme, une prostituée, ou de peur qu'il y ait un éboulement? Pourquoi avons-nous besoin de citer cette troisième raison, de peur qu'il y ait des démons qui s'attaquent à lui? Alors, nous répond, Bechou parcharte, chadete. Nous parlons ici d'une nouvelle ruine, et donc il n'y a pas de crainte d'éboulement, ou bétré, et ils sont deux, et donc s'ils sont deux, vexchere, et ils sont de bonne moralité, donc il n'y a pas à craindre qu'ils aient des relations avec une prostituée. Donc la seule raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de rentrer dans cet endroit, c'est de peur que les démons s'attaquent à eux. Agma demande, Ibetré, s'ils sont deux, mazikinamileka. Mais des démons, il n'y a rien à craindre, puisqu'ils ne vont pas les attaquer, comme nous avons dit plus haut, que les démons ne s'attaquent pas à deux personnes en même temps. Alors Agma répond, c'est vrai qu'en généralité, les démons ne s'attaquent pas lorsqu'ils sont deux, avalbim komal, chashinan. Dans un endroit où ils ont l'habitude de se trouver, on craint, oui, qu'ils s'attaquent quand même à deux personnes en même temps. Libaïtema, si tu veux, tu peux me dire, Leolam Bechad. Toujours nous parlons ici d'une personne toute seule. Et nous parlons dans une nouvelle ruine. Donc il n'y a pas de crainte d'éboulement. Mais il y a une crainte de démons. Ah, et tu m'as demandé la crainte, pour quelle raison ici, il n'y a pas la raison que nous avons citée plus haut, qu'on le suspecte d'avoir des relations avec une prostituée. Alors, des Kaebedabra, nous parlons que cette ruine se trouve dans le désert. Des Hatam, que là-bas, Mishum Khashad Leka, on ne peut pas le suspecter. Pourquoi? Des Aisha Bedabra, Loshricha. Ce n'est pas l'habitude qu'une femme se trouve toute seule dans le désert. Mishum Mazikin Ika. Mais la raison des démons est encore valable. C'est-à-dire qu'il y a quand même à craindre que les démons l'attaquent. Tanu Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. Arba Mishmarot Ave Alaila, divrei Rebbi. D'après Rebbi, la nuit est divisée en quatre gardes. Ce sont là les paroles de Rebbi. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Shalosh, la nuit est divisée en trois gardes. Maïtahama de Rabbi Nathan, quelle est la raison de Rabbi Nathan? Dit-il, car il est écrit dans un verset, Vayavo Gidon, et Gidon est venu, Umea Ish Asherito, et les 100 hommes qui sont avec lui, Bikzea Machane, au bout du camp, Rosh Ashmorat Atichona, au début de la garde du milieu. Et pour dire du milieu, le pasuk a utilisé le terme tichona, etana, et nous avons appris, en tichona, l'explication de nos mots tichona, et la shiyesh lefanea ou leacharea. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant et quelque chose après. Donc lorsque nous parlons de la garde, alors ça veut dire qu'il y a une garde avant et une garde après. Donc ici nous avons dit hashmoret atichona, la garde du milieu, ça veut dire qu'en fait la nuit est divisée en trois gardes. Il y en a une au milieu, une avant et une après. Rebbi, alors comment Rebbi explique-t-il cela? Maï tichona, quelle est l'explication ici du mot tichona? Achad mina tichona sheba tichonot, une des gardes de celle du milieu. C'est-à-dire que d'après Rebbi, c'est vrai, il existe tichona, l'explication du mot tichona veut dire qu'il y a une garde avant et une garde après, mais ici, en fait, il y en a deux qui sont au milieu, puisque d'après Rebbi, la nuit est divisée en quatre gardes. Et donc, Gidon est venu dans une des gardes du milieu. Alors, Reb Nathan, pourquoi Reb Nathan n'a-t-il pas expliqué comme ça que Tichona veut dire une des gardes du milieu? Alors, Mektiv Tichona, Sheba Tichonot, est-il écrit une des gardes du milieu parmi celles du milieu? Tichona active, il est juste écrit la garde du milieu, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule au milieu et pas plusieurs. Alors, Gma demande Maïta Amade Rebbi, quelle est la raison de Rebbi qui a dit que la nuit est divisée en quatre gardes? Amar Rabzrika, Amar Rabami, Rabzrika a dit au nom de Rabami, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi. Katov echad Omer, dans un verset, il est dit, à propos de David Ameler, Chatzot laila akum leodot lecha al mishpete tzedkecha. Au milieu de la nuit, à minuit, je me lève pour te remercier sur tes lois justes. Katov echad Omer, et dans un autre verset, il est dit, Kadmu enai ashmurot. Mes yeux ont devancé les gardes. C'est-à-dire que David Ameler dit ici qu'il se réveillait avant les gardes. Aketat, comment cela? Arba mishmarot ave laila. À cause de ces deux versets, nous sommes obligés de déduire que la nuit est divisée en quatre gardes. C'est-à-dire, étant donné que nous avons un verset qui nous dit explicitement que David se réveillait à minuit. Et dans le second verset, il est dit que lorsque David se réveillait, c'était avant deux gardes, puisqu'il est dit « Ashmurot », les gardes. Donc, quand nous parlons des gardes au pluriel, hein, le minimum du pluriel, c'est deux. Donc nous sommes obligés d'expliquer que lorsque David Ameler se réveillait à minuit, il restait encore deux gardes. Donc si depuis minuit jusqu'au matin, il y avait deux gardes, nous sommes obligés d'expliquer que du début de la nuit jusqu'à minuit, il y avait aussi deux gardes. Donc de là, nous apprenons que la nuit était divisée en quatre gardes. Alors Agmar demande à Rav Nathan, alors comment Rav Nathan explique-t-il ces versets? Savoir là qu'est Rabbi Yoshua, lui il pense comme Rabbi Yoshua, dit-nous, parce que nous avons appris dans une Mishnah à propos de jusqu'à quand on a le droit de réciter le Kriyat Shema du matin. Alors, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, Ad Shalosh Shaot, on a le droit de le réciter jusqu'au début de la troisième heure. Sheken Derech Melachim La'amod B'Shalosh Shaot, parce que c'est l'habitude des rois de se lever au début de la troisième heure. Alors, c'est-à-dire au début de la troisième heure, c'est-à-dire à la fin de la deuxième. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que de minuit jusqu'au matin, Shid de Leila, ça fait 6 heures de la nuit. Et à part ça, il y a les deux heures de la matinée que les rois ont l'habitude de dormir. Donc, c'est deux gardes, c'est-à-dire que d'après Rabbi Nathan, la durée d'une garde est de 4 heures, étant donné que la nuit qui a une longueur de 12 heures est divisée en 3 gardes. Et maintenant, David Ameler dit, Kadmu einai mishmarot, mes yeux ont devancé les gardes. C'est-à-dire que David Ameler dit que moi, par rapport aux autres rois, je me suis levé deux gardes avant les autres rois. Et c'est vrai. Parce que d'après Rabbi Yoshua, tous les autres rois se lèvent à la fin de la deuxième heure. Donc il y a 6 heures de la nuit, puisque David Ameler se réveillait à minuit, plus 2 heures de la journée, ça fait 8 heures. 8 heures, c'est la durée de deux gardes, d'après Rabbi Nathan. Ça, c'est une première réponse. Ravashi dit, une autre explication de comment Rabbi Nathan explique les versets, Mishmera ou Palga, une garde et demie, Nami Mishorot Kareleu, ça peut aussi s'appeler plusieurs gardes. Et donc, David Ameler, lorsqu'il se réveillait à minuit, il disait, Kadmo Enaï Mishmarot, mes yeux ont devancé les gardes. En fait, c'était pas deux gardes, mais une garde et demie. Mais une garde et demie aussi appelée plusieurs gardes. Dama Rabzrika Amar Rabbi Ami. Et Rabzrika a dit au nom de Rabbi Ami. En omrim bifne amet, on ne parlera devant un mort, et la dvara shelmet, seulement des sujets se rapportant aux morts. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Rabbi Abba Bar Kahana a dit, lo amran el abidivre Torah. Cet enseignement n'a été dit seulement à propos de paroles de Torah. Aval mile de alma, mais sur une simple discussion, letlanba, il n'y a pas de problème à avoir une simple discussion en présence d'un mort. C'est-à-dire que Rabbi Abba Bar Kahana nous explique, la raison, et comme l'explique Rashi, la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de dire des divrei Torah à côté d'un mort, parce que ça s'appelle en quelque sorte l'oeg l'arrache, c'est-à-dire se moquer d'un pauvre. C'est-à-dire ici, il y a plusieurs personnes qui parlent des divrei Torah, et le mort aimerait lui aussi en quelque sorte dire ce qu'il pense et dire son avis dans ces divrei Torah, mais étant donné qu'il est décédé, il n'a pas la faculté de la parole, donc il ne peut pas s'exprimer. Donc en fait, c'est un peu se moquer de quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler des divrei Torah. Mais une simple discussion, on a oui le droit. Vekaïdamre, il y en a qui disent, Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Rabbi Abba Bar Kahana dit, Lo Amran est là à filou be divrei Torah. Cet interdit a été dit même sur les paroles de Torah. C'est-à-dire que, et à plus forte raison, une simple discussion. C'est-à-dire qu'en présence d'un mort, on a le droit de parler seulement des choses, des sujets se rapportant sur le mort. Et une simple discussion, non, parce que ça fait honte au mort, et à plus forte raison, et bien sûr, des paroles de Torah que c'est interdit. La Gemara demande maintenant, mais David, mais palga de Leila, mais David, tu me dis qu'il s'est levé à minuit, d'après le verset que tu m'as rapporté plus haut. Mais oh, Tavakai, c'est pas vrai, d'après ce que nous on sait, il s'est levé déjà depuis le soir, il s'est levé. Dictif, car il écrit, Kidamti Baneshef, va à Chavea. Je me suis levé au Neshef, et j'ai imploré. Et nous allons voir expliquer telle explication de ce mot Neshef. Apparemment, le mot Neshef, ça veut dire le soir. Donc on voit, je me suis levé au soir et j'ai imploré. C'est-à-dire que David Ameler se levait déjà le soir. Alors comment nous dit, Umimaïda et Neshef Ota, et d'où je sais que ce mot Neshef veut dire le soir, dit-il, car il écrit, Ben Neshef Berevion, Beishon Laela va fela. Au Neshef, quand décline la lumière du jour, dans la noirceur de la nuit et de l'obscurité. C'est-à-dire que quand décline la lumière du jour, ça s'appelle le Neshef. Et c'est quand que décline la lumière du jour? C'est le soir. Donc nous avons ici une preuve que lorsque nous disons Neshef, ça veut dire le soir. Et donc nous voyons que David se levait au moment du Neshef, c'est-à-dire au moment du soir. Donc comment pouvons-nous dire que David se réveillait à minuit? Amar Rabbi Hoshaya, Amar Rabacha. Alors Rabbi Hoshaya a dit au nom de Rabacha, Achikamar. C'est comme ça qu'il veut dire. Mais Olam lo avar alaycha tzot laila beshena. Il n'est arrivé que le moment est passé, de minuit est passé pendant que je dormais. C'est-à-dire que, en fait, David avait l'habitude de se lever à Neshef. Mais des fois, il arrivait qu'il se levait un peu plus tard. Mais une chose est sûre, c'est que jamais le moment de minuit est passé et qu'il dormait. Rabzira nous dit, « Atratzot laïla et amitnanum kesus » Jusqu'à minuit, David, il somnolait comme un cheval. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde dans la nature, les chevaux ont cette faculté de dormir debout. Il somnole, et ça les repose suffisamment. Alors David, il en était de même. Il somnolait comme un cheval, il n'avait pas un vrai sommeil. Mais quand Vélar, mais à partir de ce moment-là, et ensuite, Ayamid Gaber Kari, il se renforçait comme un lion. Ravashi Amar, et Ravashi nous dit, une troisième réponse, Al-Khatsot Laila, Yarosek Bedivre Torah. Jusqu'à minuit, il était occupé par des paroles de Torah. Mais quand Vélar, et ensuite, Beshirot Betishbarot, il disait des chansons et des louanges. Maintenant, la Gemara revient sur ce que nous avons dit plus haut, que le mot Neshef veut dire le soir. Ve Neshef Urtaou, et le mot Neshef, ça veut dire le soir. Ha Neshef Tzafraou, mais pourtant nous on a appris que Neshef, ça veut dire le matin, dit-il, car il écrit dans un verset, Vayakem David, et David les a frappés, mais un Neshef Ve'adaerev, depuis le Neshef Ve'adaerev, et jusqu'au soir les Macharotam du lendemain. Maïlav, alors n'est-ce pas Mitzav, quoi? Que lorsque nous disons qu'il les a frappés depuis le Neshef, ça veut dire qu'il les a frappés depuis le matin, Ve'adlila, jusqu'au soir du lendemain. Alors on répond, non, lo, mais Otavadurta, il les a frappés du soir jusqu'au soir du lendemain. Alors Yagmaga demande, Yachi, si c'est ainsi, Lichtov, mais un Neshef, Ve'adlila, qui les a frappés depuis le Neshef jusqu'au Neshef, c'est-à-dire du soir jusqu'au soir. Omaerev, Adaerev, explicitement le mot qu'on utilise d'habitude pour le soir, depuis le soir jusqu'au soir du lendemain. Alors pourquoi avons-nous utilisé ce mot Mineshef Veadaerev, depuis le Neshef jusqu'au soir du lendemain? Et là, Amarav, alors Rava nous dit, très Nishfe à vous. Il existe deux explications de ce mot Neshef. Nashaf Leila Vateyoma, c'est le moment où la nuit part et le jour arrive, ça veut dire le matin. Et Nashaf Yemama Vateleila, c'est le moment où le jour part et la nuit arrive. Et donc, c'est pour cela que lorsque il est dit que David les a frappés depuis le Neshef jusqu'au soir du lendemain, alors ça veut dire qu'il les a frappés depuis le matin jusqu'au soir du lendemain. Et lorsque plus haut il est dit que David se levait au moment du Neshef, alors l'explication est que David se levait au moment du soir. Alors que ma demande, David, mia vayada palga de lele et mat. Et David, savait-il quand est-ce minuit exactement, puisque nous avons dit que David soit se réveiller à minuit, soit à partir de minuit commencer à dire des louanges, etc. Ou toutes les, suivant toutes les explications, il en sort que David savait exactement l'heure de minuit. Alors je me demande, comment se fait-il que David connaissait l'heure exacte de minuit? Ashta Moshe Rabbeinu lo avayad. Moshe Rabbeinu, lui, ne savait pas quand était l'heure de minuit. C'est-à-dire, lui ne savait pas quand était exactement le milieu de la nuit. Dirtif, car il écrit, lorsque Moshe Rabbeinu a dit au Béni Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte à minuit, alors il leur a dit, « Kachatzot laila ani yotze betor Mitzrayim. » À peu près vers l'heure de minuit, je sors d'Égypte. Je sors à travers l'Égypte. Agma demande, lorsque Moshe a dit ça au Béni Israël, « Maï kachatzot, que veut dire à peu près vers minuit ?»« Il y madame alekutchabérikou kachatzot. » Si nous vous allons expliquer qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui-même a dit à Moshe Rabbeinu que vers minuit, il allait sortir à travers le peuple d'Égypte et les frapper de la mort des premiers-nés et faire sortir les bénis Israël, existe-t-il un doute devant Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu lui-même peut-il avoir un doute? C'est quand l'heure exacte de minuit? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu sait exactement c'est quand l'heure de minuit. Et là, d'amar les bachatot. Et là, nous sommes obligés d'expliquer qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, à minuit pile, je frapperai les premiers-nés et je ferai sortir les bénis Israël. Et lui-même est venu, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu lui-même est venu et il a dit à peu près vers minuit. Pourquoi? Alma, donc de là nous voyons. Mais Sabkale, lui il avait un doute, il ne savait pas exactement c'était quand minuit, donc il n'a pas voulu dire à minuit pile parce que lui-même ne connaît pas l'heure de minuit, donc il a dit à peu près vers minuit. Mais David Avayada, alors Moshe Rabbeinu ne connaissait pas l'heure de minuit, c'est-à-dire l'heure exacte du milieu de la nuit, et David le connaissait. En répondant, David, Simana Avale, David, lui, il avait un signe, d'Amar Ravacha Bar Bizna, parce que Ravacha Bar Bizna nous dit, Amar Rav Shimon, il a dit au nom de Rav Shimon, Chassida, Rav Shimon Chassida, Kinor Ayataloui le Mala Mimitato Shel David. Il y avait une sorte de harpe qui était suspendue au-dessus du lit de David. Et lorsque le moment de minuit arrivait, Baruach Tzfonit, le vent du nord venait, Venoshevedbo, et soufflait dans cette harpe, ou Menagel Melav, et la harpe jouait de elle-même. C'est-à-dire que David avait dirigé cette harpe d'une certaine façon, que le vent qui souffle à minuit pile passe à travers cette harpe, et qu'elle puisse jouer de elle-même. Et donc, c'est pour ça, comme cela que David connaissait l'heure exacte de minuit. Alors, Miyadai Omed, alors aussitôt il se levait, Oversek Batorah, et il étudiait la Torah, Atchala Amuda Shachar, jusqu'à que se levait le matin. Kevan Shala Amuda Shachar, et lorsque le jour montait, Nichnesu Chachme Israël et tôt, les sages d'Israël rentraient chez lui, Amroulé, ils lui ont dit, Adonenu Ameler, notre maître le roi, Amcha Israël Tzrim Parnassa, ton peuple Israël a besoin de moyens de subsistance. Alors Amarlaïm, alors David leur a dit, les rovei parnesos emise, allez et assurez votre subsistance l'un de l'autre, c'est-à-dire travaillez entre vous et que chacun donne suffisamment un salaire l'un à l'autre et comme ça il y aura du travail entre vous et vous aurez le moyen de vivre. Azamroulo, ils ont dit, en akometz masbia etari, une poignée de nourriture ne peut pas rassasier un lion, ven abom itmane mechuliato, et le trou d'un puits ne peut se remplir de sa propre terre. C'est-à-dire, tous les bénis Israël, même s'ils travaillent et qu'ils essayent de chacun de subvenir à sa subsistance, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas encore suffisant. Alors, Amarlaïm, alors il leur a dit, Lechou pishtou yedechem bagdoud. Allez et mettez la main sur les troupes étrangères se trouvant dans notre pays. Alors, miyad yotzim b'Achitofel. Alors, immédiatement, il prenait conseil auprès de Achitofel. Venim lachim b'Sanhedrin. Et ils allaient consulter le Sanhedrin. Veshoalim Behorim Vetumim, et il posait la question au Horim Vetumim, c'est-à-dire le Kohen portait sur lui, le Kohen Gadol portait sur lui les Horim Vetumim, et ils allaient poser la question au Horim Vetumim, est-ce qu'ils allaient gagner la guerre ou pas. Alors, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef nous dit, Maïkra, comment le voyons-nous dans les versets? Car il écrit, Vachare Achitofel, Benayahu ben Yoyada, Beviatar Vesartsava, la Melech Yoav. Et après Achitofel, venait Benayahu ben Yoyada, et Beviatar Vesartsava, et le ministre de l'armée, la Melech du roi, c'était Yoav. Alors, et ce verset fait allusion à ce que nous venons d'étudier. Achitofel, c'est Yoet. Achitofel, c'était le conseiller. Vechen Omer, et de même il est dit, Vatzat Achitofel, Asher Yaatz, Bayamim Aem. Et le conseil d'Achitofel, qu'il a conseillé ces jours-là. Kaasher Ishal Ish Bidvar Elokim, il ressemblait comme si quelqu'un demandait la parole de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, Achitofel donnait des très bons conseils.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.